Bonjour bien-aimés, bonjour frères et sœurs. Ça va? Ça peut aller? Ça va pas? Par la grâce de Dieu, ça va. Merci sœur Lisa. Parce que bien sûr, il y a les mots, les difficultés. Mais notre Dieu est avec nous, n'est-ce pas? Et lors de la prière que nous avions là, pasteur Serge disait que le fait que nous soyons au culte ou que nous voulions venir rendre un culte à Dieu, en tout cas en communauté, puisque notre vie doit être un culte à Dieu, eh bien, c'est la manifestation de sa grâce pour, envers nous, de notre amour pour lui par rapport à ce qu'il a fait pour nous. Et c'est vrai. C'est parce que nous sommes reconnaissants de ce que nous sommes maintenant et de ce que nous serons, et bien que nous voulons en communauté nous rassembler, non pas comme une habitude, mais toujours comme un signe de reconnaissance. Amen. Reconnaissance. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voici tels que nous sommes devant toi, en tant que communauté. Il est bon de nous humilier en te demandant pardon pour toute action, toute pensée. Tu connais nos difficultés, des fois même nos penchants. Nous voulons nous remettre devant toi. Et en vertu, par le sacrifice de Jésus. C'est lui qui nous donne cette opportunité ce matin. Sa mort, mais surtout sa résurrection. Alors c'est en son nom, c'est en sa personne, c'est par sa personne que nous pouvons nous présenter là, en communauté devant toi. Et nous voulons te rendre un culte qui te soit agréable. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de t'inviter, tu es là. Te demandons simplement de disposer nos cœurs à te rendre ce culte. Nous aurons également écouté ta parole qui est la vérité, et qui par ton Saint-Esprit nous développe, nous apprend, et nous permet surtout de mener une vie en conformité avec elle-même. Reçois toute la louange de ton peuple ce matin. Et nous-mêmes qui avons la responsabilité sur l'estrade de pouvoir amener ton peuple à te louer, donne-nous un cœur bien disposé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, je veux parcourir avec vous le psaume 97, qui est un psaume pas très long, 12 versets, que nous allons du coup prendre, sectionner un petit peu entre chaque chant. Et le psaume 97, psaume que les Israélites considéraient comme psaume du règne. Règne de Dieu, bien sûr, commence d'ailleurs par l'éternel règne. L'éternel règne, ô terre, exulte. Îles nombreuses, soyez dans la joie. Et beaucoup ici sont issus des îles. Les îles ne sont pas oubliées dans cet appel à l'adoration de Dieu. Autour de lui, des nuées sombres et l'obscurité, sous-entendu autour de Dieu, signe des ténèbres dans lesquelles la terre a été plongée. Par contre, justice et droit sont l'appui de son trône. Et devant lui, un feu s'avance, mais un feu qui consume alentour ses ennemis. Quand ses éclairs illuminent le monde, la terre, en les voyant, tremble de peur. Oui. Les cieux proclament, non, quant aux montagnes, verset 5, elles se fendent devant l'Éternel comme la cire, devant le maître de toute la terre. Les cieux proclament sa loyauté et tous les peuples contemplent sa gloire. Et ce dernier verset, surtout le « tous les peuples contemplent sa gloire », nous savons que cela sera rendu manifeste quand le Seigneur Jésus reviendra. Il est dit que toute bouche reconnaîtra Jésus comme Seigneur. Nous-mêmes, nous le faisons volontairement. et également tous ceux qui le méprisent encore aujourd'hui. Nous pouvons chanter ce premier chant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère cet immense univers que tu as créé. Chantons bien aimé ce premier chant. Que celui pour qui Dieu est bon acclame Dieu ce matin. Pousse même des cris de joie. Amen. Gloire à Dieu. Verset 7 du psaume 97. Qu'il soit confus tous ceux qui servent de vaines idoles et qui se glorifient de leur faux Dieu. Aujourd'hui, ils ne sont plus de bois et de pierre. Mais ils sont partout quand même. Et ils guettent même les chrétiens, vous savez. Le travail, la télé, entre autres. Ça, c'est ce qu'on entend tout le temps. Mais ce qu'on n'entend pas. Que tous les dieux devant lui se prosternent. Sion l'apprend et s'en réjouit. Toutes les villes de Juda exultent. Ô Éternel, devant tes jugements. Et c'était vrai à l'époque du peuple d'Israël, en souffrance, qui attendait la manifestation du pouvoir de son Dieu. Et c'est aussi vrai aujourd'hui pour nous qui avons placé notre confiance en Jésus. Nous attendons le jugement de Dieu, non pas pour condamner les gens parce qu'on aurait un mauvais cœur, mais parce que le monde dans lequel on vit est un monde sans dessus-dessous. Et que l'homme n'a pas été fait pour vivre comme ça. Nous attendons que notre Dieu revienne, que notre Seigneur Jésus revienne. Car l'Éternel, toi le Très-Haut, tu es souverain sur toute la terre. Car l'Éternel, toi le Très-Haut, tu es souverain sur toute la terre. Et tu surpasses de loin tous les dieux. Deuxième chant. Dieu est bon. Et nous voulons le crier. Parce que son amour et sa puissance sont extraordinaires. Dieu est bon. Dieu est bon.
Dieu est bon. Nous voulons le prier. Dieu est bon. Le célébrer. Plus jamais en douter, Dieu est bon, oui c'est bien vrai. Et quand je pense à son amour pour moi, mon cœur saute de joie et je veux danser. Car dans son cœur il y a place pour moi et j'y cours les bras grands ouverts. Dieu est bon, nous voulons le crier, Dieu est bon, le célébrer. Jamais en douter, Dieu est bon. Oui, c'est bien vrai. Et quand je pense à son amour pour moi, mon cœur saute de joie et je veux danser. Car dans son cœur il y a place pour moi et j'y cours les bras grands ouverts. Dieu est bon, nous voulons le crier. Dieu est bon, le célébrer. Jamais en douter, Dieu est bon. Oui, c'est bien vrai. Dieu est bon. Nous voulons le crier. Dieu est bon. Le célébrer. Dieu est bon. Ne plus jamais en douter, Dieu est bon. Oui, c'est bien vrai. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie,
ton amour encore une fois,
ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour,
Jésus,
ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer. toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu.
Car tu es mon Dieu.
Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu.
Ton amour, Seigneur.
Ton amour. Ta puissance. Ta présence dans ma vie. Ton amour. Ta puissance. Ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu.
Je veux.
Tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu.
Nos prières de louange. Et je veux te louer, Seigneur, parce que tu m'as aimé le premier, parce qu'alors que j'étais séparé de toi, tu as voulu me rapprocher. Et je te remercie donc pour ce plan parfait. Je te remercie pour le Seigneur Jésus qui, en donnant sa vie, m'a racheté à un grand prix. Et maintenant, je peux dire je suis enfant de Dieu. Je suis héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Ça veut dire que je ne suis pas n'importe qui. En plus d'être une créature merveilleuse, je suis un racheté. Je suis ici, en même temps je suis là-haut. Et un jour je serai complètement là-haut. Et cette réalité ne me concerne pas seulement, elle concerne tous ceux qui mettent leur foi en Jésus. C'est là que tu es bon. Que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Verset 10. Nous sommes 97. Vous qui aimez l'Éternel, ayez le mal en horreur. L'Éternel garde la vie de ceux qui sont fidèles, qui lui sont fidèles. Et de la main des méchants, il les délivre. Une lumière est semée pour l'homme juste. Et de la joie pour ceux qui ont le cœur droit. Cette lumière est venue parmi les hommes un jour. Il s'appelait Jésus. Et nous l'avons accepté, comme beaucoup. Et nous avons de la joie ce matin, en dépit de toute autre difficulté. Oh, vous les justes, réjouissez-vous à cause de l'Éternel. Célébrez sa sainteté par vos louanges, n'est-ce pas ce que nous faisons ce matin? La parole du Seigneur, bien-aimé. Faisons monter, dans ce cas, faisons monter un parfum de louange. C'est le chant que nous allons chanter. Parce que nous avons la force du Seigneur en nous. Cette force qui nous permet de renverser des montagnes. Amen. À nous la force. La joie, ça dit, la joie, hein? À nous la force.
À nous la force. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son
à nous
bras
la force
puissant,
encore,
à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.
Revêtu,
revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.
Amen. L'apôtre Pierre nous dira dans sa deuxième lettre, chapitre 1er, versets 5 à 8, pour cette raison même, c'est-à-dire avant il avait parlé de l'appel que Dieu nous a adressé et puis des effets de cet appel dans nos vies. Et bien pour cette raison même, cet appel, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi. Moi j'ai la force de caractère dans ma version. À cette force de caractère, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À l'endurance, l'attachement à Dieu. À cet attachement, l'affection fraternelle. À cette affection fraternelle, l'amour. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà notre programme, nous qui avons accepté le sacrifice du Seigneur Jésus pour nous-mêmes. Toujours mieux le connaître. Et nous, il y a des efforts à fournir. L'Esprit nous y aide, mais il y a des efforts à fournir pour connaître et pour ressembler toujours mieux au Seigneur Jésus. C'est un beau programme, n'est-ce pas, bien-aimé? Nous voulons lui dire que nous voulons demeurer dans sa grâce, n'est-ce pas? Demeurer dans cette grâce qui est suffisante pour nous. On l'entend chaque semaine. Qui est suffisante pour nous. Je veux demeurer dans ta grâce.
Je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que toi seul. Toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul. Toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur.
J'apprends à mourir à moi-même. Je choisis ton chemin, j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et mon Seigneur. À dépendre de toi, j'ai tant besoin de toi.
Il n'y a que toi seul, toi seul, ô mon Jésus, qui a connu mes craintes et mes seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Je chéris en moi ta parole, elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières. Lorsque tu as parlé, je ne peux plus douter.
Il n'y a que toi seul,
toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser.
Il n'y a que toi seul.
Il n'y a que toi seul. Toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frères. Il n'y a que toi seul. Toi seul, ô mon Jésus, qui t'a regardé.
te rendons grâce, Père Céleste, pour, en effet, ton amour si grand que tu as voulu réconcilier avec toi-même ta créature. Et nous ne cesserons jamais de nous le ressasser, parce que nous sommes passés de la mort à la vie quand même. Nous ne pouvons oublier cela. Et merci Seigneur Jésus parce que tu as dit en partant que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est cette espérance qui nous fait vivre chaque jour en dépit de toutes les vicissitudes de la vie. Alors merci pour ce culte que nous te rendons. Merci pour tous ces chants. Et merci parce que tu oins ton serviteur pour nous parler de ta part. Il le fera avec ses mots, il le fera avec sa personnalité, mais il le fera loin de ton Saint-Esprit. Nous te demandons de lui faire du bien, de le fortifier dans son corps, dans sa personne, et que les paroles qu'il nous adressera soient des paroles visant à nous encourager à nous reprendre de ta part. Te demandons donc de nous disposer notre cœur à entendre ta parole, à la comprendre, et aide-nous par ton Saint-Esprit à la mettre en application dans nos vies. Seigneur, parle parce que ton peuple écoute. Amen.
Bien-aimé en Christ, bonjour. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous pendant que nous allons partager sa parole ensemble. Je salue aussi ceux qui nous suivent, s'ils sont là par Zoom, qu'eux aussi puissent participer à cette bénédiction. Que le Seigneur aussi soit avec vous pendant ce temps que vous avez mis à part chez vous pour suivre ces cultes. Je commencerai par une prière. Pourquoi ? Parce que il y a quelques, même pas 10 minutes en sortant, moi et mon frère Eras, il y avait une jeune dame dehors que mon cœur était touché. J'ai vu ses larmes couler et je me suis dit, mais Seigneur, c'est lui qui recueille nos larmes. Tu connais la souffrance de nos larmes. Et ce n'est pas pour rien que quand nous versons des larmes, le Seigneur connaît. Il sait le pourquoi. Cette jeune dame est là ce matin. Il est là. C'est pourquoi je lui ai dit sincèrement qu'il n'y a pas d'accident ou d'incident avec Dieu, mais c'est une rencontre avec Dieu. Si Dieu permet qu'elle puisse être là, qu'elle puisse passer devant l'église. Ce n'est pas pour rien. Dieu connaît toutes choses. Il avait tout planifié pour elle. Et ce matin, sois la bienvenue et soyez bénie. C'est vrai, vos larmes coulent, mais le Seigneur sait le pourquoi. Et mon cœur est touché. Et ce que Dieu va faire pour vous sera salutaire. Votre présence ce matin, c'est une présence salutaire. Donc sois béni. Ne crains rien, sois en paix. Et le Seigneur est avec vous. Merci pour cette décision que vous avez prise de ne pas passer, mais de rentrer et de participer avec nous en ce moment. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà ce que je voulais vous partager parce que ça m'a touché. Et puis, je me suis dit, je partage aussi au peuple de Dieu. Et vous la verrez peut-être à la fin du culte. Elle est libre. Voilà. Encore une fois, merci pour toutes vos pensées vers nous, pour ma famille et pour tous ceux que vous vous faites monter vers Dieu dans vos prières pour nous. Merci Seigneur. Bien-aimés, la Bible, qui est la parole de Dieu, nous enseigne beaucoup de vérités sur Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et pourtant, une question demeure. une grande, on peut dire, une question importante. Est-ce que c'est certain que le Christ va revenir? Est-ce que c'est certain que le Christ va revenir? Dès le début de ce culte, le frère Mathieu a commencé par ce psaume 97. Et ce psaume résume en grande partie donc ce que je veux vous partager ce matin. Nous n'étions pas concertés, mais quand il a commencé à lire ce psaume, j'ai dit « Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. » Oui, pour nous qui croyons, la réponse est oui, que Christ va revenir. Mais pour ceux qui ne croient pas, la réponse est l'inverse. Pour eux, Christ est mort, il ne reviendra pas. Mais que nous dit la Bible? Nous allons lire quelques versets qui seront projetés. Nous allons lire ces versets qui sont des vérités. Il y a dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. D'abord, nous commencerons par Acte 1, verset 11. Car c'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. Ça, c'est une certitude. Ce n'est pas des paroles au hasard. Dans Matthieu 24, verset 30, nous lisons encore ceci. Tout le peuple de la terre trembleront de peur. Même dans le psaume 97, cela a été dit, la peur. Tous les peuples de la terre, trembleront de peur et se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme revenir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire du ciel. Dans Apocalypse 19, verset 16, c'était pas le frère Élie que j'avais transmis. Un petit, c'est bon? Merci Seigneur. Alors, je me suis arrêté où? C'était dans Apocalypse 19, c'est ça? Apocalypse 19, verset 16. Il avait sur son vêtement, donc le Christ, et sur sa cuisse, un nom écrit. Qu'est-ce qui est écrit sur son vêtement? Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Jésus, le roi, des petits rois, le seigneur des petits seigneurs. Ce texte souligne sa souveraineté absolue, bien-aimé. La souveraineté absolue de Christ sur tous les dirigeants humains. Qu'il est qui? Qui est le roi? Je suis votre roi, dit le Christ. Dit le Christ, le Seigneur. C'est vrai que Christ, aujourd'hui, va revenir. Ce sera l'avènement glorieux du roi. Quand il va revenir, ça sera vraiment glorieux. Dans Matthieu 7, verset 22. Matthieu 7. Verset 22, bon, je vais lire. Ce n'était pas là, ce n'est pas un problème celui-là, parce que je ne l'ai pas écrit, c'est vrai. Plusieurs me diront, parce que j'ai retenu seulement un seul mot dans ce verset, plusieurs me diront en ce jour-là. Ce jour-là. Ce jour-là, bien-aimé, c'est le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Ces jours-là, bien-aimés, les jours de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Le texte suivant, lui, je crois qu'il est là, frère Eric. Matthieu 25, 31, il est là. Voilà. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Hébreux 10, verset 37, 10, 37. Encore un peu de temps, c'est lui qui doit venir, bien-aimé, viendra, et il ne tardera pas. Habacuc 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas si elle tarde à temps-là, car elle s'accomplira certainement. Peuple de Dieu, au travers de ces vérités, nous pouvons chacun de nous affirmer quoi? Affirmer que la gloire de Jésus-Christ, notre Dieu et notre grand Sauveur, se réalisera au temps fixé, nous dit Habacuc. Même si son retour est tarde aujourd'hui, mais soyons fermes avec certitude que le Christ reviendra. Jacques 5, verset 9 nous dit ceci. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juste est à la porte. Jacques, le frère de Jésus, nous dépeint ici que Christ, c'est comme un juge. Il est sur le point d'ouvrir les portes des tribunaux pour procéder au jugement. Donc, la porte peut s'ouvrir à n'importe quel moment. Cette porte peut s'ouvrir à l'instant même où nous sommes en train de partager la parole de Dieu. Elle peut s'ouvrir. Et Jésus arrive. Oui, ne vous plaignez pas les uns et les autres. Le titre de notre exhortation ce matin, c'est quoi? Là, j'essaie un peu de vous donner quelques versets qui confirment que Jésus-Christ va revenir. Et il y en a beaucoup de versets dans la Bible. J'ai pris seulement une partie, sinon nous allons rester comme dans l'ancien temps, toute la journée, en train de lire, de lire et de lire. J'ai pris seulement quelques versets. Mais le titre de ce matin... Pourquoi le Christ doit-il revenir? Nous sommes certains et certaines qu'il doit revenir. Mais pourquoi doit-il revenir? Nous allons épingler ensemble 4 points. Le premier point, le Christ reviendra pour nous apporter le salut complet et définitif. Je répète, il reviendra pour nous apporter le salut complet et définitif. Quand nous lisons dans Jean 19, ce n'est pas écrit, quand nous lisons dans Jean 19, verset 30, Jésus, en expirant sur la croix, qu'a dit Jésus quand il s'est expiré sur la croix? Que tout est accompli. Tout est accompli, a dit Jésus. C'est-à-dire, son œuvre était parfaite. L'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, mes bien-aimés, était parfaite. Quand nous regardons son œuvre d'enseignement, tout était parfait. Jésus nous a bien enseigné. Et quand nous regardons aussi son œuvre expiatoire sur la croix, elle a été aussi parfaite et salutaire pour chacun de nous. Donc s'il a expiré en disant « tout est accompli », cela nous montre sa perfection. Bien-aimés, sur la croix, Jésus s'est offert une seule fois pour nos péchés. Il s'est offert en sacrifice pour nous. Mais il viendra une seconde fois. Quand il va revenir, est-ce que c'est pour encore ôter nos péchés? Non, parce qu'il a fait une fois pour toutes. Son œuvre à la croix était parfaite. Pourquoi alors sa seconde venue va être encore pour nous ôter les péchés? Non, Christ reviendra pour la seconde fois pour sauver ceux qui l'attendent. De lui, le salut. Hébreux 9, verset 28, pour ceux qui sont en train d'écrire. Donc, il viendra pour la seconde fois pour sauver ceux qui attendent de lui le salut. Nous savons tous, croyants et non-croyants, que la mort de tout homme est suivie du jugement, que ce soit chrétien ou pas chrétien. Nous savons que la mort est suivie du jugement. Mais est-ce que la mort de Jésus-Christ est-il suivie du jugement? Non. La mort de Jésus-Christ est suivie non du jugement, mais du salut. Il est mort, il est ressuscité, et voilà, il va revenir pour le salut éternel, le salut de tous ceux qui l'attendent. Voilà une des raisons que Christ va revenir, non plus pour ôter nos péchés ont déjà été ôtés. Son sang a coulé, son corps a été brisé, maltraité, et quand il va revenir dans toute sa gloire, c'est pour, bien aimé, hein, notre salut complet et éternel. Alors, ne doutons pas de notre salut. Ne doutons pas. Notre salut est certain. Comme certains peuvent le penser, nous le savons, nous entendons certains qui disent que, je ne sais pas, il faut passer par les œuvres. Ils ne savent pas s'ils seront sauvés. Beaucoup les disent. Et beaucoup aussi les pensent. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que nous sommes sauvés. Alléluia. Nous sommes sauvés, non, parce que nous avons accompli des actes conformes à ce que qui est juste, mais nous sommes sauvés par quoi, hein? Par la grâce. Et par quel moyen? Le moyen de la foi. 1 Corinthiens 1, verset 18, que nous pouvons lire ensemble. Car la prédiction de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Elle est une puissance de Dieu. Oui, vous êtes là, peuple de Dieu, devant le Dieu souverain. Il est là avec nous. Tout à chacun, nous sommes engagés. Nous sommes engagés soit dans un processus du salut qui n'est pas encore achevé. Nous marchons vers le salut éternel. Nous y allons tout doucement, par la grâce de Dieu. Donc, notre salut n'est pas encore achevé avant la rédemption du corps, ce corps que nous avons aujourd'hui, ce corps physique. Ou soit dans un processus de destruction pour ceux et celles qui rejettent la croix du Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Corinthiens que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ils vont vers la perdition éternelle parce que ils rejettent la croix de Christ. Mais nous qui avons accepté la croix du Christ, c'est une puissance de Dieu en nous. De Corinthiens chapitre 5 verset 4, l'apôtre Paul nous dit ceci. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, c'est quoi cette tente? C'est notre corps physique. Notre corps physique, c'est le corps qui nous enveloppe. Nous gémissons, accablés. Accablés, c'est-à-dire par des diverses circonstances, par des diverses manières pour chacun de nous. Parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir enfin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Bien-aimés, nous gémissons d'une façon ou d'une autre. Du fond du cœur, nous murmurons, nous soupirons. Nous soupirons parce que nous ne sommes pas encore établis pleinement. Chacun de nous, nous ne sommes pas encore établis pleinement dans notre condition de fils adoptifs du Dieu vivant et vrai. Nous ne sommes pas encore établis bien-aimés. Mais notre libération arrive. Elle arrive. Alors, continuerons-nous à gémir? Oui, dans cette tente, nous allons gémir toujours. Continuerons-nous à murmurer? Oui, nous allons toujours murmurer, nous dit la parole de Dieu. Nous soupirerons aussi. Mais la libération de notre corps arrive dans Romains 8, verset 23. Cette libération aura lieu quand est-ce? Lors du retour de Christ. Notre corps sera libéré. Chacun et chacune, nous attendons ardemment. Est-ce que vous attendez ardemment le retour du Christ? Est-ce que nous attendons ardemment le retour du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver de ces corps? Ce corps qui sera transformé. Oh, notre corps misérable. Jésus reviendra pour transformer ce corps misérable et les rendre conformes à son corps glorieux. Le corps de Jésus-Christ est glorieux, bien-aimé. L'apôtre Paul nous le souligne dans Philippiens 3, je n'ai pas écrit. Philippiens 3, verset à partir du verset 20 jusqu'au verset 21. Ce corps sera transformé. C'est une vérité. Ceux qui seront à ce moment-là, on se pose des questions, mais si notre corps sera transformé lors de la venue de Jésus-Christ, ceux qui seront en vie à ce moment-là revêtiront les corps glorieux par-dessus leur corps mortel. Si Jésus-Christ revient maintenant, nous sommes en vie maintenant. Donc, nous allons nous revêtir, bien-aimés, du corps glorieux de Jésus-Christ. 2 Corinthiens, cela est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 4. C'est pourquoi nous pouvons dire que nous ne passerons pas tous, bien-aimés, par la mort. Mais nous serons par contre tous transformés en un clin d'œil. Tous nous serons transformés en un clin d'œil, en un instant. Christ revient maintenant, tout d'un coup nous sommes transformés. Nous sommes revêtus du corps glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est là, au son de quoi? De la trompette. Quand l'ange sonnera la trompette, et c'est là que nous serons transformés. Pourquoi? On veut vous dire que, ben, oui, mais mon corps, ce corps mortel qui gémit, qui soupire, qui murmure, est là. Mais par-dessus, il y a le corps glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Simplement parce que ce qui est corruptible, bien-aimé, doit se revêtir d'incorruptible. Voilà la raison. Mon corps mortel est revêtu maintenant de l'incorruptibilité. Ce qui est corruptible doit se revêtir d'incorruptible et ce qui est mortel de l'immortalité. 1 Corinthiens 15, pour ceux qui écrivent encore, 51 à 53. Alors, nous pouvons passer à l'autre étape, si c'est nous qui sommes vivants. Mais pour ceux, celles et ceux qui sont morts dans l'union avec le Christ, cela, bien aimé, leur esprit est dès à présent avec le Seigneur. C'est ça notre assurance. Celui ou celle qui meurt dans le Seigneur est auprès du Seigneur et avec lui. Lors de son avènement, qu'est-ce qui va se passer? Pour nous, nous serons revêtus de l'incorruptibilité s'il revient maintenant. Mais pour cela, eux, ils sont en paix. Leur esprit est dès à présent avec le Seigneur. Luc 24, verset 43, ou encore Philippiens 1, 23. D'où leur corps glorifié et bien-aimé ressuscitera au moment du retour de Christ. Ils seront ressuscités, ceux qui sont morts en union avec lui. Deux points importants pour nous qui sommes vivants et pour ceux qui sont morts en union avec le Christ. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 14 et verset 16, nous ne lirons pas le verset 15. Paul nous dit ceci. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont décédés. Ceux qui sont morts avec lui, le Christ le ramènera lors de son avènement. Il le ramènera. Ça, l'apôtre Paul le confirme. Et c'est la vérité. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Ayons cette confiance. Même si aujourd'hui, il y en a qui nous ont précédés dans le Seigneur, mais soyons en paix, qu'un jour nous serons ensemble pour la gloire de Dieu. Nous serons ensemble parce que c'est la vérité, c'est écrit. Nous serons transformés en un clin d'œil. Nous serons revêtus de l'incorruptibilité, de l'immortalité. Et ceux qui sont déjà morts, eux, ils sont dans la gloire du Seigneur, dans sa présence glorieuse. Et ensemble, au son de la trompette, nous allons nous rencontrer. Et c'est là, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Deuxième point. Le Christ reviendra pour révéler sa véritable nature au monde. Quand Jésus reviendra, c'est pour vraiment révéler sa nature, qui il est. Vous savez, l'image qui est généralement retenue de lui, c'est quoi? Oh, vous allez me dire, vous le savez, un bébé dans la crèche. C'est l'image mondiale que les gens retiennent de Jésus-Christ. Un bébé dans une crèche. Ou encore un prophète galiléen qui, en Palestine, de bourgade en bourgade, prêchait la bonne nouvelle. On les prend comme ça, un prophète, un grand prophète. Oui. Ou encore, il est le fondateur des grandes religions mondiales. Bien-aimés, on peut encore aller plus loin. Mais je m'arrête là en disant que nous voyons que l'homme, par sa pensée limitée, cherche à faire quoi? En disant tout ça, oh Christ, c'est rien, c'est un bébé dans la crèche, le petit Jésus. Le Christ, c'est qui? C'est oh, c'est un prêcheur. L'aller de bourgade en bourgade, etc., etc. Nous voyons que la pensée limitée de l'homme cherche à s'efforcer à donner à Christ une institution simplement ecclésiastique. Mais il est au-delà de ça, Jésus-Christ. Dans Matthieu 28, je n'ai pas écrit, 28 verset 18, le vrai visage de Jésus-Christ actuel est bien différent. Et connu du monde. Ah, mais si le monde nous présente que Jésus est comme ça, mais quelle est cette image qui est bien différente, connue aussi du monde? Qu'a dit Jésus à ses disciples avant de les quitter? J'ai reçu, quoi, le plein pouvoir dans le ciel et sur la terre. Jésus a reçu le plein pouvoir dans le ciel et sur la terre. Éphésiens 1, verset 20, 22, nous allons lire ensemble. Qui est Jésus vraiment? Il, c'est-à-dire ici, il représente Dieu, le Père, la déployer, donc la puissance de Dieu sur Christ, en le ressuscitant des morts. Aucun homme est ressuscité des morts. Il n'y a que lui, bien-aimé. Jésus-Christ, le ressuscité. La gloire et la victoire. Jésus-Christ a vaincu la mort. Personne d'autre. Jésus-Christ seul. Au-dessus de toute domination. Non. En Christ, le ressuscitant des morts, pardon. Et en le faisant asseoir à la droite de Dieu dans le lieu céleste. Christ est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père. Donc, il n'est pas ce petit Jésus qui est encore dans la crèche. Il est monté au ciel, assis à la droite du Père. Et là où il est assis, il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné au chef suprême à l'Église. Amen. Voilà ce que Christ est pour nous, bien-aimés. Et l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre, ça je n'ai pas marqué non plus, dans 1 Pierre 3, donc chapitre 3, verset 22, il fait aussi allusion, donc écho, que depuis son ascension, depuis que Christ est monté au ciel, Jésus-Christ siège encore une fois à la droite de Dieu. Les anges, les autorités, les puissances célestes lui sont soumis. Ça, c'est la vérité. Il n'est pas ce petit Jésus dans la crèche. Dans Apocalypse 1, verset 5, Jésus-Christ est le souverain. Il est le prince du roi de la terre. Il est couronné. Ah, nous voyons aujourd'hui des généraux avec des 50 000 médailles tout autour. Et nous voyons par la télévision et partout chaque fois, celui-ci, celle-là a été décoré, Légion d'honneur, etc., etc. Mais les nôtres, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui, il est couronné de nombreux diadèmes. De nombreux diadèmes. Incontables. Et aucune puissance ici-bas ne pourra tenir contre Jésus-Christ. Amen. Aucune puissance. Apocalypse 12, verset 5. Le jour viendra. Ah, le jour viendra. Quel est ce jour où les rois de la terre, les hauts dignitaires, tous ceux qui se disent que moi je suis au-dessus de tout le monde, tous ceux qui se prétendent, je ne sais pas quoi, comment les qualifier, mais tous ces dignitaires, tous ces grands hommes politiques, tous ces chefs militaires, les riches et les pauvres, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres fuiront, nous dit la parole de Dieu, fuiront devant lui en s'écriant « Cachez-nous, cachez-nous loin du regard de celui qui siège sur le trône, cachez-nous loin de la colère de l'agneau. » Ce que j'ai dit, c'est dans Apocalypse 6, 14 à 16. Fuyons tous les dignitaires, tous les hommes politiques, qui que ce soit. Le point 3, pourquoi Christ va revenir, nous arrivons à la fin. Le Christ reviendra pour établir son règne. Ah. Donner le salut éternel pour montrer qui il est. Et maintenant, c'est pour établir son règne. Bien-aimé, vous savez, durant l'histoire de l'humanité, Dieu a laissé les gouvernements de ce monde à l'homme. De diriger le monde. Et nous voyons, chacun de nous, les résultats. Partout dans le monde, nous avons les injustices, les oppressions, abus de pouvoir, des guerres, comme actuellement, des guerres. La famine, et oui, ça commence déjà. La famine. Les génocides, les viols. Nous voyons toutes ces choses-là. Dieu le voit et il le sait. Il voit et il le sait. L'homme a tout essayé par différentes méthodes, bien-aimé. Il a tout essayé par son intelligence est limitée. Il a tout essayé par sa volonté qui est aussi limitée. Il a tout essayé des méthodes de gouverner. Qu'a-t-il fait l'homme? Il a instauré la monarchie. Il a instauré l'empire, l'oligarchie actuellement, les systèmes féodaux, la démocratie, la dictature, les communismes, toutes ces choses-là, l'homme a essayé. Et le national-socialisme. Alors, toutes ces choses, cette façon de gouverner, qu'est-ce que ça donnait? Rien. Rien aujourd'hui. Rien n'a apporté le bonheur de l'homme. Pourquoi? Simplement parce que l'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. C'est pourquoi aujourd'hui, tout ce que l'homme peut prétendre, tout ce qu'il peut faire, donc n'amène à rien. Il a tenté. Ce n'est plus le communisme, c'est la démocratie, ce n'est plus la démocratie, c'est la dictature, ce n'est pas la dictature, c'est la monarchie, l'empire, etc., le clanisme, etc., etc. Rien n'a donné à l'homme le bonheur. Le vrai bonheur, c'est cette rencontre avec le Créateur. C'est ça le vrai bonheur. Même si nous avons tout l'argent, même si nous travaillons, même si aujourd'hui, je peux travailler, je peux avoir ceci, je peux avoir cela, je peux avoir mon CDI, mais je n'aime pas la santé, j'ai dit, ah mais quand on n'a pas la santé, mais quand on n'a pas le travail, quand on n'a pas ceci, on murmure, on soupire tout le temps. Mais il y a l'autre vrai bonheur, qui est cette rencontre avec le Seigneur. La rencontre avec Jésus, c'est ça le vrai bonheur. C'est ça que ceux qui ne sont pas croyants n'arrivent pas à comprendre et rejettent la croix de Christ. Ils le rejettent. Lorsque le Christ reviendra pour prendre le gouvernement du monde, parce qu'il va revenir, il va prendre le contrôle, le gouvernement du monde, il va le prendre en main. Mais pour faire quoi? Pour rétablir son règne. Il apportera ce qui avait été le plan primitif de Dieu pour l'humanité. Dieu avait un plan. Le jardin d'Éden nous l'indique. Donc, Dieu avait un plan. Mais quand le péché est entré, le péché a tout abîmé. Dieu avait un plan. Mais le Christ, quand il va revenir, il va rétablir son règne en instaurant, donc, bien aimé, le plan primitif de Dieu pour l'humanité. Habacuc 2, verset 14, nous allons lire. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Toute la terre, quand Christ reviendra, sera remplie de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Et c'est quand on est sur le bateau, ou quand on va dans les îles, quand nous regardons l'eau, est-ce que nous voyons le fond de la mer? C'est l'eau qui couvre le fond de la mer, n'est-ce pas? Ça couvre tout. La gloire de Dieu, quand il va revenir, donc va couvrir sa connaissance étendue, illimité, va couvrir toute l'humanité. Oui, Dieu établira par Jésus-Christ son règne. Dans Ésaïe 11, que nous n'allons pas lire, 11, 6 à 9, ici, je voulais seulement souligner en lisant ces textes, j'ai dit, bon, si encore j'ai écrit, ça sera plus long. En résumé, quand vous allez chez vous à la maison, vous lirez, Ésaïe 11, 6 à 9. Ici, les conditions de la paix seront parfaitement remplies. La gloire, la connaissance de Dieu sera... Donc, la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Et Ésaïe le confirme que les conditions, cette condition de la paix seront parfaitement remplies. Parce que Christ est quoi? On dit, son nom est qui? Le prince de la paix. Donc, le prince de la paix, quand il va venir, le prince de la paix, il fait quoi? Il rétablit son règne. Je suis la paix, et maintenant, c'est la paix. Quand nous parlons qu'il y a la paix, parce que toute agressivité entre l'homme, toute agressivité entre les animaux, les rapaces, les carnivores, toute agressivité entre les hommes et les animaux aura disparu. Il n'y aura plus cela. Le prince de la paix est là. Il règne. Il règne. Il n'y aura pas tout ça. Nous verrons pas que le lion va aller aujourd'hui chasser pour se nourrir. Il va tuer l'antilope. Un exemple. Non. On verra l'antilope à côté du lion, côte à côte. Nous verrons la chèvre, elle ne va pas aller brouter l'herbe. Ainsi. Donc c'est ça la paix. Et ce moment viendra. Ça c'est sûr. L'Éternel sera l'arbitre des peuples et l'Éternel sera le juge des nations. Quatrième et dernier point. Le Christ reviendra pour délivrer la création du joug qui pèse sur elle. La création. Il est le créateur et la création, bien-aimée, a un certain poids. Nous savons tous qu'à cause de la désobéissance de l'homme, la nature entière a été entraînée dans la chute. Toute la nature a été entraînée dans la chute. L'apôtre Paul nous les décrit dans Romains 8, de 20 à 23. Vous lirez aussi à la maison. La création, en résumé, la création a été soumise à la vanité. La création a été soumise à la fragilité. La création soupire. La création souffre, bien aimé, des douleurs de l'enfantement, de la servitude et de la corruption. Nous en voyons tous les jours. Nous l'entendons par le radio. Tous les jours. La création souffre. D'où le retour de Christ délivrera la création de son asservissement. Oui, Jésus viendra. Ces joues qui pèsent sur la création, le juste juge, Jésus-Christ, quand il viendra, il délivrera la création de son asservissement. Et donnera quoi? Naissance à un nouveau monde. Un nouveau monde. Mais qu'est-ce que nous constatons avant que tout cela arrive? On peut se poser des questions. Avant que le Christ revienne, aujourd'hui, le monde bien-aimé traverse une crise écologique et économique majeure. Je ne peux pas rentrer dans les détails, vous l'entendez vous-même par le média, etc. La crise écologique et économique est majeure dans le monde entier. Les perspectives humaines pour l'avenir de l'homme et de la terre n'est pas optimiste. Nous attendons les grands scientifiques, les géologues, etc. Ils disent, mais on n'est pas optimiste. Non. Tous ces grands scientifiques sont pessimistes de ce qui va arriver. Pourquoi tout cela? La création soupire. La création souffre. La création est asservie. Il faut que le Christ revienne pour aujourd'hui régner, délivrer la création de son asservissement. Oui, ils ne sont pas optimistes. Car les conditions de vie deviennent de plus en plus insoutenables. Insoutenables. Oh, une petite parenthèse. Le carburant aujourd'hui, les prix... Ça fait que augmenter. On nous dit qu'on va bloquer, mais ça augmente. On se pose la question. Bien-aimés, ouvrons nos yeux et comprenons. Comprenons. Ce qui nous prédit, c'est toutes ces choses. L'homme, c'est une utopie. Mais pour nous, la réalité, c'est Jésus-Christ. C'est lui, la réalité. La violence de toute nature entre le peuple sont en progression. Sont en progression. Je vois là où je travaille, parfois je partage avec les gens. Ils me disent, mais dans quel monde on vit? Et vous aussi, au travers des gens que vous croisez, ils se posent la question, mais dans quel monde nous vivons? La violence, de toutes sortes de natures. Le chômage mondial. Aujourd'hui, nous pleurons pour quelques millions de chômeurs, mais allez par exemple dans d'autres pays, en Afrique ou ailleurs, un papa qui s'élève le matin, qui a 3-5 enfants, qui ne travaille pas, qui ne sait pas quoi il va donner à ses enfants et à sa femme, quoi donner à manger. Son enfant est malade. Comment pourrait-il aller payer le médecin? Incapable de le faire. Mettons-nous à la place de cette personne ou de ces personnes. Et il y en a beaucoup dans le monde. La création pleure, soupire, souffre. Le chômage devient impossible. Il devient possible à maîtriser. N'importe quel gouvernement peut faire ceci, peut faire cela. Le chômage est toujours là. Il est toujours là, le chômage. Nous avons encore des perversions morales de toutes sortes, des nouvelles maladies, des pandémies. Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Nous y sommes encore aujourd'hui. Le Covid, etc. Et nous voyons des anciennes maladies en recrudescence. Nous les voyons encore revenir. Coqueluche, exemple. La binorragie, les syphilis en Afrique. Toutes ces choses reviennent encore. La création, bien-aimée, souffle, pleure, soupire. Les organisations mondiales se réunissent pour essayer de trouver des solutions. Je prends un exemple de l'ONU. Ils essayent de trouver des solutions. L'OMS trouve, à cause de la famine, de trouver les solutions. L'ONG. Tout cela, nous voyons bien aimé qu'ils n'arrivent pas à trouver des solutions. C'est tout un combat. C'est difficile. Parce que le monde souffre. Le monde pleure. Jésus-Christ va bientôt revenir. Il va bientôt revenir, bien-aimé. Le fondateur, le créateur de toutes choses, il va revenir. Ces organisations, conduites par des dignitaires, des hommes puissants, des intellectuels, mais comment ils n'arrivent pas à trouver? Peut-être, je me suis posé la question, mais ces différentes personnes ne croient pas en Dieu. Ils voient seulement leur intelligence, ils voient seulement leurs prouesses, leurs avantages, etc., etc. Toutes ces organisations sont vouées à l'échec. Le monde va de mal en pis. Le monde va de mal en pis. Est-ce que cet échec, nous allons l'attribuer à Dieu? Si le monde, comme les non-croyants, mais si nous vivons comme ça, vous me parlez de Dieu, si nous vivons comme ça, c'est à cause de votre Dieu? Les accusations que nous entendons de gauche à droite, partout, quand nous prêchons la bonne parole, la parole de Dieu. Mais si Dieu existait, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela? Alors, allons-nous attribuer cet échec à Dieu? Non. L'échec est attribué à l'homme. À l'homme est lui seul qui est responsable de tout cela. Car le retour de Jésus-Christ démontrera que le plan de Dieu, ses plans primitifs de Dieu étaient bons. Et ces plans primitifs de Dieu empêchera l'histoire, que l'histoire de l'humanité se termine par un échec. Quand il reviendra, ça sera la paix, la joie. En conclusion, bien-aimés, chacun de nous, dans la perspective du retour de Jésus-Christ, ce que je voulais vous communiquer, c'est gardons nos lampes allumées. Gardons nos lampes allumées, bien-aimés. Encourageons-nous les uns les autres mutuellement. Car le retour de Jésus-Christ nous permet aussi de supporter avec patience les épreuves présentes de la vie aujourd'hui. Les épreuves sont dures. Nous souffrons chacun de nous. Mais quand nous pensons que Jésus-Christ reviendra ou il peut revenir en un instant, donc cela apaise. Cela nous fait du bien. Donc, c'est là où nous verrons le verdict de l'Éternel. Ceux qui disent que voilà, que Dieu n'existait pas. Que s'il y a un Dieu qui existait, il allait faire ceci, il allait faire cela. Mais quand il va revenir, et c'est là où les yeux verront qui est Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va faire, qui il est. Pour nous qui croyons, c'est aussi une source de réconfort et de consolation. Une source aussi d'exhortation à mener une vie dans la lumière. Oh, nous sommes que des voyageurs sur cette terre bien-aimée. Marchons dans la lumière, la sainteté, la sobriété, la simplicité, la maîtrise de soi, la pureté. Car l'essentiel pour nous aujourd'hui, mes bien-aimés, est-ce que c'est de connaître le quand, le comment, l'heure, quand Christ reviendra? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça pour nous, bien-aimés. Mais pour nous, c'est quoi? C'est d'aimer en se préparant de l'avènement du Christ. Préparons-nous. Que nos lampes ne s'éteignent pas. Que nos lampes ne s'éteignent pas. Lisons la parole de Dieu. Aimons cette parole. Accrochons-nous à cette vérité. Annoncez l'évangile, la bonne nouvelle. Que la foi de chacun, moi aussi avec vous, que la foi de chacun et de chacune soit ferme et inébranlable. Inébranlable. Le monde passera. Toutes ces convoitises, toutes ces choses, tout ça passera. Mais la vérité biblique, la parole de Dieu, elle, c'est la clé. C'est la clé bien-aimée de notre espérance et de notre victoire. Alors pour finir, je dirais simplement, gloire à celui qui va bientôt revenir. Gloire à celui qui va bientôt revenir pour rétablir le plan primitif de Dieu sur la terre. Pendant ces temps, soyons dans la joie, dans la paix. La victoire de Christ, c'est notre victoire. Sa venue, c'est notre paix, bien-aimé. Même si nous mourons aujourd'hui, comme nous venons de lire, même si nous mourons aujourd'hui, nous serons glorieux. Nous allons nous revêtir du corps incorruptible parce que nous sommes morts, unis avec le Christ. Alléluia. Amen. C'est pourquoi restons fermes. Gloire à Dieu et au Saint-Esprit qui nous fortifie chaque jour d'aller et de marcher dans ces combats. Soyons tous bénis en ces jours. Que chacun de nous soit béni. Vos familles soient bénies. Les petits-enfants, tout le monde soit béni. Et que la paix du Seigneur règne en nous, dans nos maisons, dans nos quartiers. Bon appétit. Amen.